Quel parallèle établir entre tsar russe et Vladimir Poutine ?
Et si le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, était un nouveau tsar ? C'est une question qu'il est légitime de se poser à la lumière de l'histoire de ce grand pays. Et pour nous aider à y répondre, nous sommes avec Marie-Pierre Rey, auteure du livre « La Russie des tsars » aux éditions du Cerf. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes historienne et politologue, professeure émérite d'histoire de la Russie et de l'Union soviétique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous prenez votre retraite dans notre région.
Voilà.
C'est ça. Quelques mots peut-être pour commencer sur cet ouvrage qui est paru dans une nouvelle collection.
Oui, la bibliothèque a remonté le temps, qui se veut en fait une collection accessible, voilà, à tout le monde, aux jeunes comme aux moins jeunes. L'idée étant voilà, de faciliter la connaissance par des ouvrages accessibles, joliment illustrés, faciles à lire, mais en même temps qui apportent, je l'espère en tout cas,
oui,
des connaissances et une réflexion, une matière à réflexion.
Oui. Oui. Alors, des tsars, il y en a eu un certain nombre. On connaît Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Alexandre III, Nicolas II. Durant quatre siècles, le régime autocratique confère au tsar, puis à l'empereur, tout pouvoir sur ces sujets. C'est ce que vous écrivez, Marie-Pierre Rey. Ivan III, entre 1462 et 1505, pose les bases de ce régime autocratique. Quelles sont-elles ?
Alors, oui, c'est un pouvoir qui se construit, comme vous venez de le dire, dans la durée. Ivan III pose les bases de l'autocratie, qui est le pouvoir total, absolu. Le tsar est tout puissant sur ces sujets. C'est très important la notion de sujet, puisque la noblesse en Russie sera soumise à ce pouvoir, alors qu'en France, par exemple, on aura une fronde et une noblesse qui a une marge de manœuvre. Ça n'est pas le cas en Russie. Et les bases de ce pouvoir, donc le tsar légifère par des oukases, qui veut dire j'ordonne, hein, c'est tout un symbole important.
C'est des décrets qui s'appliquent automatiquement,
voilà.
Sans discussion.
Il s'appuie sur une bureaucratie extrêmement docile, et puis symboliquement, il s'appuie sur l'Église orthodoxe, qui est religion d'État, et l'armée. L'armée joue un rôle extrêmement important en Russie, puisque le pays n'a cessé de s'agrandir, d'aller vers l'Est, d'aller vers le Sud, d'aller vers l'Ouest, et d'être dans une logique belliciste, hein, impérialiste, d'où le rôle clé de l'armée. Mais l'Église joue un rôle très important, bien sûr, en confortant ce pouvoir qui est un pouvoir sacré. Et la conséquence, elle est majeure, c'est que ce pouvoir ne peut se dissoudre, pourrait-on dire, que par la mort du souverain régnant. Le concept même d'une monarchie constitutionnelle est totalement impossible dans la logique de ce pouvoir autocratique.
Mmh. Et vous parlez de l'Église orthodoxe, si je ne me trompe pas, j'ai lu que Michel Romanov était le premier tsar à avoir été sacré.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ivan III se donne le titre de tsar, qui est la contraction du mot César. Oui. Il se dit l'héritier du César byzantin, et donc s'invente en quelque sorte une légitimité, renforcée par son mariage avec avec la nièce du dernier empereur de Byzance. Donc il hérite de cette sacralité, il se l'approprie, et en même temps, c'est très important aussi, il prend un certain nombre de pratiques venues des Mongols qui ont occupé la Russie. En particulier l'usage de la torture. Donc vous voyez qu'on a à la fois la sacralité d'un pouvoir venu de Dieu, c'est l'idée de l'empereur byzantin, et puis cet usage de la torture et cette idée que le souverain régnant a tout pouvoir, droit de vie
sur
et de mort
sujets.
Sur ces sujets. Mmh. Et Ivan IV va se faire couronner au Kremlin, c'est le premier à se faire couronner au Kremlin. C'est une première dynastie. Qui s'achève en 1598, et la seconde dynastie, celle que l'on connaît mieux et à laquelle vous faites allusion, celle des Romanov, se fonde effectivement en 1613 par cet acte fondateur qui est la proclamation, pourrait-on dire, de nouveau de ce pouvoir sacré au Kremlin.
Oui,
en 1613.
Il est couronné en 1613 à la cathédrale de l'Assomption. Quels attributs ce pouvoir sacré lui confère ?
Alors, le pouvoir, droit de vie et de mort, il est le seul à pouvoir décider en réalité de ce qui se passe dans cet état. Alors, ce qui est important, et c'est aussi un peu la tragédie de ce pays, c'est qu'au fur et à mesure que les frontières s'agrandissent, c'est que le pays devient énorme, 22 millions de kilomètres carrés en 1914, on a un problème d'administration, de gestion de cet énorme territoire, et le pouvoir pour cela s'appuie sur une bureaucratie dont les grandes figures sont toutes issues de la noblesse, hein, c'est l'idée des gouverneurs qui représentent le pouvoir, un peu à l'image des préfets en France, mais on a un décalage qui est là aussi donc cette idée de tragédie, qui est qu'ils représentent le tsar, mais en même temps, ils sont loin du tsar. Et c'est ce qui va occasionner tous les phénomènes de corruption que l'on connaît bien dans la littérature russe, qui est un des éléments clés hein, qu'on voit chez Gogol de manière merveilleuse, et d'autres auteurs, parce qu'en fait, le pays est tellement grand et il est sous-administré, pourrait-on dire, d'où en réalité ces marges de manœuvre que s'attribuent les gouverneurs, alors même qu'on prétend que le tsar est tout-puissant partout.
Oui, c'est ça. Lire votre ouvrage, Marie Perret, on comprend que c'est Alexandre II qui a été le plus loin dans les réformes des institutions. Qu'est-ce qu'il a mis en place précisément ?
Alors, Alexandre II, il arrive au pouvoir à la mort de son père, Nicolas Ier, en 1855. Et on est à ce moment-là en pleine guerre de Crimée, qui sera perdue par le pouvoir russe. Ça, c'est très important. En Russie, quand les guerres sont gagnées, il n'y a pas de réforme. Malheureusement, même si le peuple a été héroïque, comme par exemple face à Napoléon, il n'y a pas de récompense. On le voit en 1812-14, au moment de la victoire contre Napoléon. On le verra après la victoire de Staline contre l'Allemagne nazie. Le peuple n'est pas récompensé pour ses efforts. En revanche, quand la guerre est perdue, ce qui est le cas en Ukraine et ce sera le cas en Afghanistan, le pouvoir est contraint aux réformes. Et Alexandre II va aller très loin, en particulier avec une réforme symbolique, mais plus que symbolique quand même, hein, qui est l'abolition du servage en mars 1861. Il donne enfin la liberté aux paysans et d'autres réformes, comme la réforme de la justice, sont mises en place. C'est très important. Le tsar avait peut-être, hein, c'est une hypothèse, on le sait par un certain nombre de textes, envisagé d'aller au-delà, de peut-être donner une charte constitutionnelle, mais il est assassiné en 1881 et son successeur, les deux derniers tsars, que ce soit Alexandre III et Nicolas II, reviendront progressivement sur cette idée hein, de monarchie constitutionnelle et ils ne céderont pas. Nicolas II, on le sait, hein, du fait de la Révolution, est contraint à des réformes. Il va lâcher du lest après la Révolution de 1905.
Avec son manifeste d'octobre.
Voilà, mais on peut dire que ce manifeste 1905. Lui est imposé. Hein, il donne un certain nombre de libertés, une assemblée est créée, la Douma, mais le tsar peut la dissoudre à sa convenance. C'est en ce sens qu'on n'a pas de véritable monarchie constitutionnelle.
Oui, c'est ça. On n'a pas ce contre-pouvoir, en fait.
Absolument.
Oui, c'est ça. Il y a eu quand même d'autres tentatives de réforme pour modifier le caractère autocratique du régime. Pourquoi elles n'ont pas abouti ?
Alors, c'est parce qu'elles ne vont pas assez loin, parce que il n'y a pas aussi de substrat politique suffisant. Il n'y a pas ces classes moyennes et ouvertes, entrepreneuriales qu'on a en Europe au même moment. On a vraiment une sorte de coupure entre le tsar, la masse paysanne, et puis une toute petite élite nobiliaire qui ne va pas forcément dans le sens de la modernité, qui est parfois souvent très campée sur ses privilèges, et puis parfois une noblesse éclairée, des classes moyennes montantes à la fin du XIXe siècle, qui aspire précisément à aller vers un état de droit, à parlementarisme, à l'occidental. Mais c'est quelque chose d'assez réduit. Et n'oublions pas non plus qu'il y a une partie des élites qui refusent de regarder vers l'Europe et vers l'état de droit, qui considèrent, et c'est le mouvement slavophile, qui aujourd'hui d'ailleurs hein, reprend un peu, si je puis dire, voix de cité, puisqu'un certain nombre de thématiques de Vladimir Poutine renouent avec cette idée que la Russie n'a pas à regarder vers l'Occident, qu'elle doit trouver en elle-même les propres ressorts qu'elle se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas à s'inspirer de l'Occident et en particulier de l'état de droit et des valeurs des Lumières qui ne correspondraient pas, c'est le discours des slavophiles mais c'est aussi celui de Vladimir Poutine, à ceux dont la Russie a besoin.
Et puisque vous parlez de Vladimir Poutine, comment il réécrit-il l'histoire du pays depuis la guerre en Ukraine notamment?
Même avant, ça a commencé très très tôt, ça commence même dès 2009 et on le voit en 2011-2012 au moment du bicentenaire de la victoire sur Napoléon, qui correspond aussi au moment où des premières manifestations de jeunes gens ont lieu pour contester ce pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir un tournant très conservateur, idéologique, très marqué, qui renoue avec l'idée de l'Empire, avec l'idée d'une grandeur impériale qu'il faut retrouver.
Donc et avec la puissance de l'armée, la puissance de l'Église orthodoxe.
Puissance de l'armée, puissance de l'Église orthodoxe. Et ce discours nationaliste conservateur va s'ancrer évidemment en 2014 avec la Crimée, et puis il est accentué encore plus depuis février 2022.
Mais comment évolue-t-il après depuis...
Oui, mais... il faut aussi quand même noter que cette inspiration tsariste, pourrait-on dire, se double d'une référence constante au passé soviétique. On sait que Vladimir Poutine est un ancien colonel des services secrets. Et il joue, ça c'est très important en Russie, avec la corde de la Seconde Guerre mondiale, qui est dans l'inconscient collectif très puissante et qui l'instrumentalise à son profit, avec évidemment une mauvaise foi terrible, puisqu'il ne cesse de parler de dénazification de l'Ukraine, qui est une sorte de mythe, et dont il joue. Et on voit bien qu'il est, de ce point de vue-là, dans une logique un peu de synthèse, syncrétiste, entre l'exaltation du nationalisme, de la grandeur impériale, et puis cette idée de puissance de puissance à la fois inspirée par le passé tsariste, mais également par l'expérience soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Et Vladimir Poutine dit, à plusieurs discours, dit personne ne peut nous vaincre, ce qui est faux, puisque la Russie a perdu des guerres, mais en tout cas se référant à la Seconde Guerre mondiale, personne ne peut nous vaincre et personne ne pourra nous vaincre en Ukraine, cette guerre est juste, alors qu'en réalité elle nie l'existence même de la nation ukrainienne, et là c'est une réécriture de l'histoire.
Oui, on perçoit à travers ce que vous dites et puis dans le discours de Vladimir Poutine de s'inspirer, de s'appuyer et sur le régime des tsars et sur le régime soviétique, finalement une forme de dédain de l'Occident.
Ah oui, très net. C'est une méfiance de plus en plus forte à l'égard de l'Occident. Et il prétend que l'Occident est décadent, permissif. Et il est vraiment de plus en plus dans une logique d'exaltation des valeurs de la famille, des valeurs traditionnelles, pour mieux montrer son écart par rapport à l'Occident. C'est une posture, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en Russie, l'appartenance à l'Église relève plus de l'acte social que de l'acte réellement intérieur religieux. Et on le voit très bien. C'est vrai qu'on a des familles nombreuses en Russie qui correspondent à la logique voulue par le pouvoir, mais on a un taux d'avortement qui est très élevé, qui est même plus élevé que dans nombre de pays européens, ce qui montre quand même qu'il y a un écart entre la posture, l'acte social d'appartenir à l'Église et la réalité. On le voyait très bien dans le film de Zviaginsev, Faute d'amour, où cette société russe apparaît très très corsetée, pourrait-on dire, par l'Église dans sa façade, mais dans la réalité des faits, il y en a autrement.
Oui, elle use de plus de liberté, en tout cas, elle se les octroie. Merci beaucoup, Marie-Pierre Rey. C'est déjà le temps de nous quitter. Je rappelle le titre de votre livre, La Russie des Tsars, aux éditions du Cerf, un livre qu'il est bon de mettre entre toutes les mains à partir du fin de collège, lycée.
Oui, 14-15 ans, et puis lycée et bien au-delà, pour mieux comprendre d'ailleurs la Russie actuelle.
Oui, et c'est très éclairant. Merci beaucoup.
Merci à vous.